qu'est-ce qui te fait marcher dans la vie ?
Le désir. Le désir, alors parfois, dire le désir, c'est un peu vague, mais c'est le désir de plein de choses. C'est finalement jouir. Jouir des bons moments, jouir des gens que je rencontre, jouir d'une découverte, d'une connaissance. C'est-à-dire que je ne vois pas quel est l'intérêt de vivre si on ne cherche pas le plaisir. Donc pour ça, il faut du désir. Voilà. Donc je crois que c'est le désir qui me fait avancer.
Bonjour, nous accompagnons dans la rue Patrick Vasseur, sociologue, maître de conférences HDR à l'Université de Caen, directeur de publication de la revue Illusio, auteur de « Contre le capitalisme » et s'est paru aux éditions Le Bord de l'eau.
Je sors d'une famille ouvrière, famille nombreuse. Je suis le seul de ma famille à avoir obtenu le bac. Et c'est même pire que ça, puisque je suis le seul à être entré au lycée. Et je pense malgré tout que dans ma famille, mes frères, etc., avaient des capacités, des qualités, peut-être aussi grandes que les miennes, si ce n'est plus. J'ai trouvé sans doute que j'ai eu un peu de chance dans la vie en rencontrant quelques bonnes personnes, quelques enseignants peut-être un peu plus attentionnés. C'est vrai que autour du désir de lecture, parce que là encore, il y a du désir, j'ai pu découvrir plein de choses. Je ne me suis pas lancé quand j'étais au lycée en me disant « je vais avoir mon bac et puis ensuite je vais aller à la fac et je deviendrai enseignant à l'université ». Ça ne s'est jamais rentré comme ça. Je suis devenu enseignant à l'université par un pur hasard. J'ai fait une thèse parce que ça me faisait plaisir, parce que j'avais ce désir de comprendre, de connaître. Je suis rentré à l'université en fait un peu comme un brigand, un poste qui n'était pas pour moi, des gens qui n'ont pas accepté ce poste-là, et moi je suis arrivé dessus, voilà. Mais avant, j'étais intermittent du spectacle, donc les choses étaient différentes. Mais c'est vrai que j'ai une passion pour ce qu'on pourrait appeler, de manière un peu bête et commune, l'éducation. Je trouve que l'éducation, c'est très important dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, dans la rue, dans la famille, auprès des enfants, dans des établissements scolaires, quels que soient ces établissements scolaires, même s'ils sont parfois un peu trop académiques à mon goût, cette éducation est importante. Je trouve que pouvoir partager une connaissance dans un système éducatif, c'est très agréable. Je ne me prétends pas et je ne veux surtout pas me prétendre comme un maître quand je fais cours. C'est un partage entre les étudiants, la connaissance et moi. C'est-à-dire que c'est une interrelation à trois paramètres, il faut qu'on soit clair. Pour que cela fonctionne bien, il faut qu'il y ait des projets communs. Et le projet, pour moi, cela a été de proposer à un moment donné, dans l'université où j'enseigne, de créer une revue. Mes collègues n'étaient absolument pas chauds. Ça les ennuyait terriblement. Et donc, j'ai proposé aux étudiants que j'avais, qui, eux, étaient très intéressés. Donc, on s'est lancé dans une création de revue. C'était en 2003. Et ce sont toujours les mêmes qui dirigent cette revue, qui s'appelle Illusio. Et n'étant pas certain que la revue suffisait, on a créé des collections aux éditions du Bord de l'eau. Voilà. Ça me semble être très complémentaire de toute forme d'éducation. Dans des revues, dans des ouvrages, il y a des mots, il y a des idées, il y a des corps aussi derrière tout ça. Et donc c'est très complémentaire de l'éducation académique que l'on peut avoir, par exemple, dans une université.
Tu as posé cette idée que ton enseignement était autre, mais tu notes quand même.
Oui, je note, c'est mon grand malheur, c'est-à-dire l'évaluation. L'évaluation est un grand malheur dans notre système. Premièrement, je ne peux pas ne pas noter, ce qui est un drame pour moi, parce que dans l'université actuelle, vu que nous sommes tous dépendants les uns des autres dans un système appelé par ECTS, etc., enfin bon, je dois mettre des notes pour que les ECTS soient acquis, sinon ce n'est pas acquis, et donc les étudiants n'ont pas leur diplôme, donc c'est assez gênant. Mais effectivement, la question que tu poses, c'est la question de l'évaluation. Oui, c'est excessivement gênant. Je ne comprends pas comment aujourd'hui on peut évaluer des étudiants sur ce qu'on appelle des semestres, c'est-à-dire grosso modo 3 mois de cours. Ça représente 18 à 20 heures de cours. On va les noter sans rien connaître d'eux, sans avoir pu échanger, sans avoir pu leur faire aimer la lecture, la découverte de théories, la découverte d'idées, de concepts, etc. Et pour X ou Y raison, parce qu'on est un peu fatigué, parce que ça fait trois semaines ou un mois qu'on corrige des copies, il y a une copie qui prendra plus cher que d'autres, ça n'a aucun sens. L'évaluation n'a aucun sens, c'est-à-dire que c'est une évaluation par les notes qui est répressive, mais il n'y a absolument aucune évaluation qui soit vraiment, aujourd'hui à l'université, dans le cadre de la formation. C'est-à-dire qu'on ne forme pas, on met en place une coercition. Coercition qui vise principalement, faut le dire, à éliminer. C'est l'élimination qui compte. Sélection, élimination.
Je presse le pas parce que mon matériel ne supporte pas la pluie. Et par notre grande chance, nous arrivons au pied d'un magasin qui va nous permettre de nous protéger. Tant qu'il y aura de la pluie, on va faire des allers-retours. Tu n'as pas mentionné le type d'enseignement que tu dispensais, puisque le spectre est large. Comment trouver une cohérence dans tout ça ?
La cohérence, elle est simple, a priori. Premièrement, il y a, je dirais, la sociologie politique qui est articulée par un cadre théorique qui est la théorie critique. Voilà, c'est la théorie critique de l'école de Francfort, qui est une théorie dialectique et qui me permet, moi, sans doute de travailler sur plusieurs objets. Ça peut être le sport, par exemple, ça peut être d'autres objets, des objets qui, à chaque fois, me servent d'analyseur pour pouvoir penser la société dans sa totalité. Voilà. Je ne crois absolument pas à l'objectivité de la pensée. La pensée est forcément subjective, c'est la pensée des sujets avec leur histoire, leurs rencontres, leurs souffrances, leurs plaisirs, etc. Je n'imagine pas, moi, en étant, encore une fois, fils d'ouvrier, en ayant eu peut-être l'occasion de croiser des personnes en difficulté, etc., je n'imaginais pas pouvoir tenter de réfléchir autrement que par une dimension critique. Alors, les dimensions critiques peuvent être multiples, mais ça ne pouvait pas être celle de Bourdieu. J'avoue que l'école de Francfort me convenait assez bien de par sa dimension dialectique qu'on ne trouve pas toujours chez Bourdieu et puis par le fait qu'on réfléchit à la souffrance ultime qui est la catastrophe, quoi, qui est la Shoah, c'est-à-dire ce moment ultime où la civilisation sombre. Voilà. Et moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut encore vivre quelque chose de ce type-là ? Ça ne veut pas dire identique, hein, soyons clairs. Mais quelque chose qui soit de l'ordre d'une situation crépusculaire. Voilà. C'est pour ça que l'école de Francfort me convient assez bien, finalement.
L'école de Francfort est souvent critiquée pour sa prise de distance vis-à-vis du terrain.
Généralement, les personnes qui disent ça s'attardent sur les principaux travaux d'Adorno et de Horkheimer. Il n'empêche que je crois qu'il y a deux erreurs fondamentales, voire trois. Première erreur fondamentale, Adorno, quand il est allé aux États-Unis, a fait des études qui étaient des études beaucoup plus appliquées, notamment sur la personnalité autoritaire. Et donc, là, pour le coup, ils ont été obligés d'enquêter, et d'enquêter lourdement et longuement. Donc, même les travaux d'Adorno ne peuvent pas être critiqués de ce point de vue-là de manière totale. Deuxièmement, je pense que ces penseurs, ces théoriciens, à qui l'on reproche une forme de théoricisme, il faut bien comprendre, malgré tout, que quelle que soit leur position, et quelle qu'en soit la dimension de leur pensée, ils ont été impliqués, totalement impliqués, dans une période que l'Europe, plus particulièrement l'Allemagne, a vécue dans les années 20, dans les années 30. Il n'y a pas forcément besoin d'enquête pour se rendre compte. Lorsque on vit une telle situation, forcément, cela laisse des traces. Ça laisse des traces intellectuelles, dans la psyché, ça laisse des traces physiquement, dans le corps. Ça laisse des traces. On ne peut pas imaginer que ces traces-là n'apparaissent pas ou ne réapparaissent pas dans les théories. Donc, malgré tout, le vécu de chacun, encore une fois, ne peut pas être évacué de la recherche de connaissances et de l'exposition de ses connaissances. Et dire que l'école de Francfort ne serait que théorique, ce serait une grave erreur, parce qu'on perdrait de vue la souffrance, sans doute, que nombre de théoriciens ont dû vivre. Et puis, il y a un certain nombre de ces théoriciens qui n'étaient pas, on va dire, réellement dans l'école de Francfort, mais qui font partie de la nébuleuse. Je pense à Walter Benjamin ou à Siegfried Krakauer, qui, eux, leurs études reposaient justement sur le vécu et sur l'observation. Je pense que tout le monde aujourd'hui pourrait être d'accord pour dire que Adorno a été terriblement marqué dans un premier temps par Krakauer, puisque c'est lui qui l'a formé à la philosophie, et évidemment également par Benjamin, quand il l'a connu. Donc je crois que cette critique ne tient pas vraiment la route. Oui, alors Hannah Arendt, c'est un peu différent. Elle ne fait pas partie de l'école de Francfort.
Non, mais dans votre essai, vous la citez.
Tout à fait. Oui, je la cite parce que pour moi, elle fait, tout comme Günther Anders, elle fait partie de la famille d'une certaine manière, même s'ils étaient en désaccord, étrangement. Elle fait partie de la famille. Mais là encore, je ne suis pas certain qu'une étude qui prendrait comme finalité l'objectivation de données ou de chiffres permet réellement d'en connaître plus sur une situation quelconque. Moi, j'entends souvent mes collègues qui me disent « Mais ton terrain, c'est quoi ?»« Mais j'ai pas besoin de terrain. J'ai pas besoin de terrain. Quel était le terrain de Zola ?» Zola n'avait pas de terrain. Pourtant, on en apprend peut-être plus sur la condition ouvrière à la fin du 19e et au début du 20e qu'au travers de l'ensemble des études philosophiques et supposées sociologiques de l'époque. Donc tout ça, c'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux. Le problème, en revanche, c'est qu'on fait disparaître derrière tout cela la capacité à l'analyse et au raisonnement. Et au fond, reste une science qui est uniquement positive ou positiviste. L'événement est la vérité, et la vérité est l'événement, ou la réalité est l'événement. Sauf qu'on ne perçoit pas tout de l'événement. On n'en perçoit pas tout. Il y a des tas de choses qui sont cachées, qui sont scotomisées, qui sont oubliées. Et pourtant, il faut tenter de les prendre en analyse, ces choses-là. Mais quand on n'en a pas trace, est-ce que... Donc tout ça, ça n'a pas beaucoup de sens.
Pourquoi écrire un essai contre et non un essai pour ?
Je ne suis pas déprimé, je suis pessimiste. J'essaye d'être pour des choses dans ma vie privée, tout le temps dans ma vie privée. Simplement, je crois qu'il y a besoin de... Alors, je ne vais pas utiliser un terme qui a été rabâché dans toute la pensée foucauldienne, etc., sur la déconstruction, parce que ça m'ennuie. Il n'est pas question de déconstruire, il est plutôt question de détruire. Déconstruire, je ne vois pas ce que ça signifie, moi. Détruire, je comprends. Aujourd'hui, pourquoi contre le capitalisme ? Je dirais la réponse est presque simple et je vais être... commun, grivois, j'en sais rien. On sort des élections. Durant ces élections, on a entendu bien évidemment beaucoup de choses, par exemple par rapport au Front National. Et on ne pourrait qu'être d'accord. Mais en dehors de cela, pour lutter, on nous offre un possible Front Républicain. Mais ce Front Républicain, je ne sais pas ce qu'il signifie. Je ne sais pas ce qu'il signifie. Est-ce que le Front Républicain, c'est le front des hommes politiques qui se sont opposés à 75% de la population qui ne désirait pas la loi travail ? Est-ce que le Front Républicain, c'est le front des hommes politiques qui ont laissé encore se noyer ce week-end 180 personnes dans la Méditerranée ? Est-ce que le Front Républicain, c'est ceux qui laissent à Calais pendant des mois des personnes... des enfants dans des situations complètement folles ? Est-ce que le Front Républicain, c'est l'ensemble de ces hommes politiques qui laissent à travers l'Europe des femmes, des enfants voyager à pied, de jour comme de nuit, se faire agresser physiquement, voler, violer, etc. Et je vois pas où est la grandeur du Front Républicain à ce moment-là. Donc, pourquoi contre le capitalisme ? Parce que ce Front Républicain est éminemment capitaliste. Voilà. Et moi, j'ai pas envie d'une société comme celle-là.
Nous accompagnons dans la rue Patrick Vasseur, sociologue, auteur de « Contre le capitalisme », essai paru aux éditions Le Bordelot. Thank you.
J'ai pas envie d'une société où l'on nous parle d'exclusion alors qu'il n'y a pas d'exclusion. L'exclusion, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y a pas d'exclusion? Tout simplement parce que la société capitaliste se nourrit du malheur, se nourrit de la pauvreté. Et donc, ces personnes pauvres, les sans-logis, pas les SDF, parce que sans domicile fixe, c'est ridicule. Hein. Soit on a un logis, soit on n'en a pas. Généralement, sans domicile fixe, si, peut-être les gens qui sont encore nomades, peut-être ont-ils cette possibilité d'être sans domicile fixe, mais ils ont un domicile. Mais ceux qu'on appelle les sans-domicile fixe, ce sont des sans-logis. Tous ces gens-là, ce sont des personnes qui font partie de la société capitaliste et qui la font vivre. S'il n'existe pas, la société capitaliste n'est pas la même. Et c'est pour ça qu'on cultive cette société-là. Donc je suis contre cette société capitaliste. Alors maintenant, il faudrait être pour autre chose, mais je peux être contre individuellement la société capitaliste. Ensuite, pour être pour une autre société, là, il faut qu'on soit collectif. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à faire société. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui, on s'en aperçoit.
Plus collectif que pour la masse.
Ah oui, bien évidemment. Oui, non, mais bien sûr.
Je fais un petit clin d'œil.
Oui, non, mais c'est à juste raison. C'est-à-dire que le capitalisme a réussi l'exploit de faire disparaître le peuple. Le peuple en tant que groupe se désirant en société, avec des différences. Il peut y avoir quantité de différences, des différences à respecter, mais au moins se désirant en société, ensemble. Aujourd'hui, les gens ne se désirent plus ensemble ou en société, ils sont devenus une masse, et c'est une masse de consommateurs, ce sont des marchandises, et cette masse-là est en plus une masse disséminée. C'est-à-dire que c'est une masse de personnes isolées qui ne vivent que pour leur petit cercle très proche d'intime et pour elles-mêmes. Oui, effectivement, la masse est importante, mais c'est le capitalisme qui a créé la masse à partir du moment où le capitalisme a créé ce désir d'accumulation. Voilà.
Qu'est-ce qui fait que vous ayez eu envie d'écrire contre le capitalisme? C'est simplement parce que vous vouliez mettre en lumière ce concept de superfluité?
Non, c'est parce qu'il y a toujours...
Ça se prononce comme ça,
fluité? Oui, superfluité. Non, c'est parce qu'il y a toujours, dans les histoires personnelles des moments qui sont des moments... initiaux. Moi, j'ai souvenir d'une histoire, elle est ridicule, mais je vais la raconter parce que, au fond, comme le dit un enseignant que j'ai eu quand j'étais étudiant, Albert Memmi, il disait qu'il faut toujours raconter des histoires pour pouvoir faire comprendre ce que l'on tente de théoriser. Et moi, je vais raconter une histoire. J'étais enfant, j'avais 7 ans, et ma maman accouchait de mon petit frère, et mon père en avait profité pendant qu'elle était hospitalisée pour faire des heures supplémentaires comme un fou. On avait une 2 chevaux à l'époque. Il voulait lui faire la surprise, il avait acheté un autoradio. À l'époque, autoradio, il devait y avoir France Inter, RMC, Europe 1, RTL, hein, dessus, c'est à peu près tout. Il l'avait montée dans la 2 chevaux, il voulait aller la chercher à la maternité, comme cela. Et la nuit, y a quelqu'un qui est passé dans la rue, qui a mis un coup de couteau dans la capote et qui a volé l'autoradio. Il y a derrière tout cela, profondément ancré, un sentiment d'injustice. Et pour aller plus loin même, Horkheimer disait que pour pouvoir comprendre et analyser, il faut avoir une forme de haine pour tout ce qui existe. Ouais, j'ai cette haine pour ce qui existe, pour ce qui est en place, pour ces relations qui n'arrivent pas à évoluer et à donner du plaisir, pour tout ce qui se déroule dans la jalousie, dans la volonté d'écraser l'autre, tout cela, ça m'oblige inconsciemment, ça m'oblige à écrire. Au fond, c'est très freudien ce que je vais dire, c'est une revanche pour mes parents. Mais il faut bien à un moment donné tenter d'analyser le pourquoi effectivement de ce que l'on est ou de ce que l'on fait.
Merci à Patrick Vassor, auteur de « Contre le capitalisme », essai paru aux éditions Le Bordelot, pour sa libre participation à ce reportage.